RTL Info, le journal, Sonia Bernabarmia, bonsoir.
Bonsoir. La commune de Val-de-Rue ne renonce pas à Mahé, ma journée à l'école, mais il faudra patienter au moins jusqu'à 2026. La priorité des autorités est de répondre au contre-projet à l'initiative Une demande, une place. Évolution en douceur à la brasserie de La Fontaine à La Chaux-de-Fonds, au four et au moulin depuis 18 ans. Dans cet établissement à succès, la famille Rudy va céder sa place à une nouvelle tenancière, mais le contenu des assiettes et des verres ne devrait pas changer. L'UDC tire son épingle du jeu. Le parti augmenterait sa part électorale de 2 points par rapport aux élections fédérales de 2023 pour atteindre 29,9% des voix selon un sondage publié aujourd'hui. Et la soirée s'annonce pluvieuse. La limite des chutes de neige pourrait s'abaisser jusque vers 700 à 800 mètres demain, même si le temps s'annonce globalement plus sec. La commune de Val-de-Rue ne renonce pas à Mahé, ma journée à l'école, mais elle devra réviser sa copie. Le premier dossier qu'elle a déposé auprès du canton lui est revenu en retour. Le conseil communal avait présenté un projet bien moins ambitieux que le système appliqué depuis la rentrée scolaire à Neuchâtel. La ville propose un important panel d'activités extrascolaires facultatives. Ce n'est pas le cas du Mahé de Val-de-Rue et cela fait défaut selon le canton. Pour l'exécutif vaudrusien, l'essentiel est toutefois ailleurs. En matière d'accueil parascolaire, la commune doit en priorité répondre au contre-projet à l'initiative Une demande, une place. Le conseiller communal en charge des écoles, Ahmed Mouratovic.
Il est vrai qu'à Val-de-Rue, il y avait cette sensibilité de l'accueil extra-familial de par les parents. Déjà, on y répond actuellement en mettant en œuvre le contre-projet Une demande, une place. Ça, c'est la base, l'essentiel. Et puis tout le reste, on a envie de dire, c'est de la décoration. Donc, amener des activités, proposer une collaboration plus étroite avec le cercle scolaire. Tout ça, ça pourrait se faire, par exemple, dans le cadre d'un projet Mahé vaudrusien. Mais indépendamment de Mahé, indépendamment des différents copiles, etc., Val-de-Rue est déterminé à étendre son offre en accueil parascolaire, on s'y est engagé avec le contre-projet. J'ai envie de dire, tout le reste, c'est un petit peu du peaufinement et puis, on va dire, des coordinations avec le canton, etc. Mais c'est vrai que si on pouvait proposer un projet Mahé vaudrusien, ce serait un bénéfice pour toutes les Neuchâteloises et tous les Neuchâtelois qui verraient un projet alternatif ou différent à ce qu'on peut voir en ville de Neuchâtel, par exemple.
Des propos recueillis par Marcel Neuenschwander, la commune de Neuchâtel est actuellement la seule du canton à avoir lancé le projet pilote Mahé. À Val-de-Rue, ce projet entrerait au mieux en vigueur à la rentrée scolaire d'août 2026. Une baisse du prix du gaz se profile pour les clients de groupe E. Dès le 1er janvier, cette diminution pourrait atteindre 17% en moyenne. Une maison individuelle qui consomme chaque année 20 000 kWh pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire bénéficiera même d'une baisse de 21%, soit une économie annuelle d'environ 600 francs. Cette réduction des prix est rendue possible par l'amélioration du niveau de stockage du gaz dans l'Union européenne. La brasserie de La Fontaine à La Chaux-de-Fonds sera gérée par une nouvelle tenancière à partir du 1er janvier prochain. Le contrat a été signé aujourd'hui. Propriétaire des murs et tenancier de cet établissement depuis 18 ans, les Rudy vont déléguer une bonne partie de la gestion du restaurant pour des raisons familiales. La nouvelle tenancière s'appelle Minka Yuseinova. Une partie du personnel de Citerama, le restaurant de la Tour Espacité qui a fait faillite, travaille à la brasserie depuis plusieurs mois. Rien ne changera à la carte des mets et des bières. Pascal Rudy, le futur ex-tenancier, continuera de fournir la bière produite dans un local à l'arrière du restaurant. Il revient sur les débuts de cette histoire à succès.
On voulait juste tout simplement servir un peu des cafés et des bières. On voulait fermer à 8h le soir. Et puis, un grand problème, quand on a de la bière artisanale, les gens ils ont beaucoup de plaisir. On faisait aussi des colonnes de bière. Donc tout de suite, le premier week-end, ça n'a pas été possible de fermer. On a dû prendre tout de suite la décision de rester ouvert le soir et jusqu'à 2h du matin le week-end.
Et pendant 3-4 ans, ça a été l'orgie.
ça a été l'orgie. On a eu un succès faramineux. On a été complètement débordés à la production de la bière. Belle ambiance, des très beaux souvenirs.
Pourquoi prendre la décision de faire de la restauration?
Les fins de soirée, des fois, sont un peu difficiles. Les gens un peu enivrés, ça crée pas mal de problèmes. On a eu des bagarres, on voulait un petit peu se séparer de ça.
Des propos recueillis par Vincent Costet, Pascal Rudy continuera aussi de tenir l'Orfort Café, l'ancien dub situé pratiquement au pied de la Tour Espace Cité. Premier pointage sur l'évolution du climat neuchâtelois. Dans le cadre du plan climat, l'État de Neuchâtel s'est lancé dans une analyse qui doit permettre d'anticiper les conditions qui prévaudront d'ici à la fin du siècle. Il en ressort qu'une hausse des températures se profile pour les prochaines décennies, et ce pour la majorité des espaces bâtis des quatre régions du canton, avec à la clé un stress thermique élevé durant les journées d'été les plus chaudes. L'objectif est de localiser et de lutter contre ces îlots de chaleur. L'État s'appuie sur des cartes qui illustrent ces phénomènes. Elles sont à retrouver sur rtn.ch. Et puis on commence à peine à ouvrir ses portes, mais il investit les rayons des magasins depuis plus d'un mois. Le calendrier de l'Avent se décline désormais sous plein de formes différentes, et pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes, avec des cases qui renferment des produits cosmétiques ou du whisky. Les 24 portes sont un véritable phénomène à succès, une mine d'or à exploiter pour les marques qui redoublent d'ingéniosité pour séduire dans ce marché où les enseignes prestigieuses côtoient de petits artisans locaux. Car les marques de luxe se sont elles aussi emparées de ce secteur avec des prix qui leur sont propres. L'analyse de Xavier Contès, le fondateur du Swiss Creative Center à Neuchâtel.
Moi, j'ai été surpris que le luxe s'intéresse au calendrier de l'Avent. Je ne le voyais pas lié au luxe, au grand luxe. Mais vous voyez à quel point c'est devenu populaire, ce calendrier de l'Avent. C'est une preuve de la réussite de ce calendrier.
Ce business du calendrier de l'Avent, il y a autant des petits producteurs locaux qui sont au contact avec des enseignes de luxe hyper prestigieuses pour finalement créer le même produit. C'est assez étonnant, non ?
Oui, ça c'est très étonnant. J'ai aussi remarqué ça. Et c'est très rare, donc ça vaut la peine de le souligner, c'est très rare que des artisans locaux, comme par exemple le chocolatier, arrivent à s'associer avec une très grande marque. C'était des terrains qui leur étaient interdits. Aux artisans locaux, le grand marketing en quelque sorte. Et là, pendant quelques temps, je ne sais pas si ça va durer très longtemps, mais pendant quelques temps, ils jouent avec les grands.
Des propos recueillis par Cléa Robert. Vous retrouvez plus d'informations sur la thématique des calendriers de l'Avent sur notre site internet rtn.ch. J'aurais pu me rendre compte que ça ne jouait pas, mais j'ai fait tout ce qu'on me disait. Mardi dernier, une habitante de Saint-Imier, Janine Favre, âgée de 92 ans, a été victime d'une arnaque aux faux policiers. De faux agents la persuadent que des malfrats ont eu accès à sa carte de crédit et qu'ils se sont peut-être aussi infiltrés chez elle. L'un d'eux, une femme, se rend à son domicile et face à l'aplomb des escrocs, elle révèle même l'emplacement d'un coffre où elle conserve des valeurs chez elle. Janine Favre.
J'ai dit oui, j'ai de l'argent de réserve pour ma vieillesse dans un coffre. Alors il faut vérifier, qu'elle m'a dit. Vraiment, je ne comprends pas. Je suis allée chercher la clé de ce coffre, que seule connaissait l'endroit où je la mettais, ma fille, parce que c'était tout marqué dans mon testament. Et j'ai ouvert le coffre et elle s'est mise à regarder ce qu'il y avait dans le coffre et en sortir des billets de banque. Il y avait aussi des pièces d'or. On a sorti ça, elle a tout mis dans une enveloppe, elle a ramassé les pièces d'or, elle a mis dans une enveloppe, puis elle m'a dit maintenant on se reverra au poste de police parce que c'est là que les choses vont se terminer et on vous rendra tout ça.
Et au final, aucun dénouement au poste de police. Toutes les économies de Janine Favre se sont envolées. La police bernoise indique qu'un autre cas d'arnaque aux faux policiers s'est encore produit ce jour-là à Saint-Imier. Une enquête est en cours. L'Union démocratique du centre gagne encore des électeurs. C'est ce que montre le dernier baromètre électoral de l'Institut Sotomo, publié aujourd'hui. Plus de 4000 personnes ont été interrogées sur leurs intentions de vote, pile une année après les élections fédérales. Et leur choix se porte toujours davantage à droite. Les précisions de notre correspondante parlementaire Marie Vieumier.
Si de nouvelles élections fédérales avaient lieu aujourd'hui, l'UDC gagnerait 2% de part électorale et frôlerait les 30%. Ce serait le meilleur score de son histoire et aucun autre parti ne progresserait. Les libéraux radicaux et le centre resteraient au coude à coude. Les socialistes et les verts perdraient chacun 0,5% de part électorale, alors que les verts libéraux verraient leur électorat fondre de 1%. Un glissement du Parlement vers la droite qui reflète la tendance européenne où règne un état d'esprit de plus en plus conservateur, constate Sotomo. L'enquête montre que même si la gauche a remporté plusieurs votations populaires depuis le début de l'année, elle ne parvient pas à convaincre les citoyens lorsqu'il s'agit de l'élire au Parlement fédéral. Pourtant, la préoccupation majeure de la population reste, et de loin, la hausse des primes maladies. Suivent l'immigration, l'asile et le climat.
Et l'enquête de Sotomo s'intéresse aussi à la popularité des conseillers fédéraux. Albert Rusty est considéré à la fois comme le plus sympathique et le plus compétent. Guy Parmelin arrive quatrième des deux catégories et Elisabeth Baumschneider arrive dernière du classement pour son influence, avant-dernière pour sa sympathie. La première citoyenne du pays est argovienne. La libérale radicale Maya Riniker a été élue à la présidence du Conseil national aujourd'hui par 170 voix sur 184 bulletins valables. Cette économiste entreprise âgée de 46 ans siège à la Chambre du Peuple depuis 5 ans. Et puis le Conseil des États sera également dirigé par un PLR. C'est le sénateur d'Appenzell-Rhône Extérieure, Andrea Caroni, qui a été élu président par 43 voix sur 44 bulletins valables, lui qui siège sous la coupole depuis 2011. Le gouvernement français s'aventure sur un chemin périlleux. Le Premier ministre Michel Barnier souhaite actionner l'article 49.3 de la Constitution concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale, un article qui lui permet de contourner le vote du Parlement. Cette démarche est d'ores et déjà dénoncée par le Rassemblement national et la gauche qui entendent voter la censure du gouvernement. L'adoption d'une motion de censure serait une première depuis la chute du gouvernement de Georges Pompidou en 1962. Et toujours en France, c'est une première dans le cadre du procès sur les viols de Mazan. La défense de l'un des accusés a plaidé l'acquittement aujourd'hui. L'avocat a décrit son client accusé d'atteinte sexuelle comme un petit pousset face aux ogres. Contre l'époux de la victime, Dominique Pellicot, c'est la peine maximale de 20 ans de réclusion qui est requise. L'homme a reconnu avoir drogué son ex-épouse Gisèle pendant une décennie pour la livrer à des dizaines d'hommes à leur domicile de Mazan. Et puis encore un petit mot de sport, c'est un obstacle de taille qui se dresse sur le chemin de l'équipe de Suisse de tennis. Elle hérite de l'Espagne à l'issue du tirage au sort du groupe mondial de Coupe Davis 2025, un adversaire qui pourrait être emmené par Carlos Alcaraz. Cette rencontre est prévue en Suisse le week-end du 31 janvier au jeu et jusqu'au 2 février. Le dernier affrontement entre les deux nations avait souri à la Roja qui s'était imposée 3-1, c'était en mars 2010. Belle soirée.